Salut Axel, bienvenue. Nous sommes ravis que tu participes à ce petit temps d'échange par rapport au groupe Deria, Yildirim et groupe. Alors, si j'ai bien compris, c'est Chimchek.
Oui, c'est ça.
Ah, voilà. Parce que tout le monde me dit Chimchek et je suis là à chaque fois, non, je crois que c'est Chimchek.
Alors
Voilà.
le S avec une sorte de cédille, ça se prononce ch en turc.
Ok.
Voilà.
Et donc, justement, par rapport au groupe, il y a des membres un peu de partout.
Ouais.
J'ai cru comprendre, je crois qu'il y a une batteuse londonienne, derrière la chanteuse qui est d'origine allemande, enfin qui est allemande mais d'origine turque, il me semble, quelque chose comme
Exactement.
ça.
C'est exactement
Comment
ça.
vous avez fait pour tous vous retrouver ensemble, en fait?
La petite histoire, c'est que en fait, donc Antonin, le guitariste, et moi, nous sommes français, mais on a habité à Londres pendant longtemps, et on fait partie d'un label et collectif qu'on a créé, qui s'appelle Catapult Records, et donc qui était basé à Londres pendant une époque. Et on a été, on va dire, invité à participer à un projet en 2014, c'était un projet à Hambourg de collaboration musicale avec différents musiciens de différents parcours et différents comment, ouais, horizons, quoi. Et donc nous on connaissait Greta, la batteuse de Londres, qui jouait avec nous sur d'autres projets et d'autres groupes, et on l'a embarqué avec nous pour faire cette petite aventure. Et donc, dans les diverses collaborations qu'on a eues à faire dans ce projet à Hambourg, qui était une sorte de festival, on va dire, interculturel, intercommunal, et ben Deria faisait partie des musiciens locaux. Donc,
Ok.
c'était dans son quartier natal. Et donc à l'issue de ce festival, on s'est dit que c'était trop bête de s'arrêter là, et du coup on a continué et c'est devenu un
Ah
groupe.
bah, oui. Bah, vous avez bien fait. Parce qu'elle chante, mais elle faisait du sax aussi, non? C'est ça, il me semble. Elle
Ouais,
était.
alors en fait elle a un parcours musical assez comment dire, assez multiple derrière, parce qu'elle a grandi dans une famille très musicale. Son père et beaucoup de gens dans sa famille jouent le baglama, donc le saz, l'instrument qu'elle joue dans le groupe Chimchek. C'est une sorte de guitare, de luth à longs manches, qui est un peu l'instrument principal, enfin l'instrument le plus représentatif en Turquie. Mais en fait, comme elle a fait aussi le conservatoire, et que à Hambourg il n'y avait pas pas le
Oui.
choix, elle pouvait pas étudier les instruments turcs, et ben elle a pris piano et saxo. Donc du coup, au début elle jouait aussi du saxo avec nous, et puis en fait finalement elle a préféré se focaliser sur le baglama, enfin le saz. En fait ils disent barlama, c'est le nom que les Turcs utilisent, et en fait en dehors de la Turquie on appelle plus simplement saz, parce que c'est plus simple à prononcer.
Oui.
Et en tout cas, du coup, maintenant, elle étudie cet instrument-là, tout particulièrement, et c'est pour ça qu'elle est maintenant à Berlin, parce qu'il y a un cursus
Ok.
instrument turc. Voilà.
Moi, j'avais découvert le projet avec. Alors, désolée si j'écorche les noms, hein, mais avec Nem Khaldi,
Ouais.
sorti en 2017, donc ça fait déjà quelques temps. J'avais vraiment adoré. Il me semble que ce morceau, c'est une reprise.
Eh oui,
C'est
oui,
ça?
oui.
Et donc, en fait, moi, je voulais savoir si sur le reste des autres albums, c'est un deal entre des reprises et des compos, s'il n'y a que des compos, si c'est que des compos, comment vous composez, si c'est que des reprises, comment vous les choisissez.
Eh ben c'est moitié-moitié, en fait. Au tout début, quand on a commencé à jouer ensemble dans le cadre de ce festival à Hambourg, c'était bien sûr uniquement des reprises, parce que c'était le tout début, et puis il fallait qu'on ait un répertoire à travailler tout de suite. Et puis en fait, quand on s'est dit, ah, il faut qu'on fasse un groupe, en fait, bien sûr, tout de suite, on s'est mis à vouloir faire des compos. Et par exemple, sur le premier EP qui a 4 titres, il y a 2 compos et 2 reprises. Et puis sur l'album, c'est à peu près pareil, c'est un peu moitié-moitié, je crois qu'il y a un petit peu plus de compos. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, même en fait, les morceaux qu'on appelle reprises, en fait, c'est plutôt des morceaux folk et traditionnels. Et que, alors, au tout début, on faisait des reprises de morceaux qui étaient déjà, qui avaient déjà été arrangés en format pop à l'époque, dans les années 60, 70, 80. Et maintenant, quand on choisit des morceaux turcs, en fait, on choisit plutôt des morceaux qui n'ont pas été réarrangés, des morceaux qui existent surtout en format trad ou folk. Et nous, on les réarrange complètement. Ce n'est pas toujours facile, on essaie de contacter les auteurs et,
oui,
et les gens qui ont aussi, sont encore en vie, et puis de voir s'ils sont d'accord pour qu'on fasse leurs morceaux. C'est toujours toute une aventure. Et puis voilà, puis après on fait nos compos. Alors les compos, il y en a des instrumentales où il n'y a pas de paroles. Et puis par contre, quand c'est des chansons, c'est généralement... alors bien sûr, c'est Beria qui écrit les textes parce que c'est la seule du groupe qui maîtrise le turc. Et puis c'est elle qui chante, donc c'est mieux. Et par contre, la composition, ça peut être n'importe qui du groupe. Et puis des fois, on fait même des choses ensemble, collectivement.
Il n'y a pas qu'elle qui chante si ? Tu chantes pas, toi ?
Si, on fait des chœurs avec Antonin, ouais. On fait des chœurs, on essaye de... On essaie de se former tout doucement à la prononciation et à comment chanter comme il faut. Et ouais, c'est pas facile. Surtout en concert, c'est difficile. Après, en studio, on a plus le temps de s'entraîner et de faire comme il faut. Mais oui, on fait des chœurs et puis en fait, les paroles des chansons, on les connaît bien. En général, on les traduit, on regarde de quoi ça parle et puis
en phonétique. En tout cas, ouais, enfin, moi je vous ai vu en live la première fois. Je vous ai vu l'année dernière à Lévitation.
Ah oui. Oui, c'était une chouette soirée, ça.
Ouais, c'était hyper bien. Et puis je trouve que vous aviez une prononciation parfaite. Je me suis dit, bon, ça va, il parle bien turc. alors moi j'avais une autre question, un peu plus large aussi, mais. En fait, alors moi j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps et que le projet commence à être un peu plus visible en France. Mais comment vous êtes perçu en Europe ? Est-ce que ça tourne aussi autant ? Est-ce qu'en Turquie il y a un truc particulier ? Enfin, du fait de la formule et du répertoire choisi en fait.
Alors en fait, en Allemagne et en Suisse, on joue beaucoup et aussi au Benelux, enfin Belgique et Pays-Bas. Et la raison à cela, je ne suis pas sûr exactement à 100%. Alors, l'Allemagne, bien sûr, c'est parce qu'on a commencé à Hambourg. On a pas mal d'amis en Allemagne. Beria vient de là-bas, bien sûr. Après, la Suisse, c'est aussi par rapport au label Bongo Joe qui coproduit les disques avec nous. Et donc, eux, ils font aussi pas mal de travail sur la Suisse et puis ils sont bien implantés là-bas et ils sont bien respectés. Enfin, on va dire qu'ils ont une bonne réputation
de
gens qui choisissent de la musique qui intéresse le public suisse. Donc, on joue beaucoup en Suisse, on joue beaucoup en Allemagne et Belgique-Hollande aussi. On a des tourneurs qui nous trouvent des dates aussi dans ces pays-là. Et après, les autres pays d'Europe, en Angleterre, on a joué un petit peu, parce qu'on a un petit peu comme on y a vécu un moment, on a des contacts. Il y a la BBC qui nous suit, enfin certaines émissions de la BBC qui nous suivent un peu. Et par contre, les autres pays d'Europe, pas trop. On a à part occasionnellement, par exemple Italie, Espagne, on n'a pas trop joué. Et la Turquie, comme tu me demandais.
Oui, bah ouais,
on y a joué une fois, on a joué à Istanbul fin 2018 et c'était un très très chouette concert et à l'issue de ça on a essayé de trouver on était en contact avec des tourneurs turcs qui devaient nous trouver des dates et pour l'instant il n'y a pas eu grand chose Et là, je pense qu'on va, on est sur d'autres pistes. En tout cas, il y a pas mal de gens en Turquie qui nous écoutent, ça on sait, parce que par les réseaux sociaux et tout ça, on voit un peu comment les gens qui écoutent notre musique et tout ça. Et du coup, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à notre musique. Et je pense que si je me trompe pas, j'ai l'impression que le public turc qui écoute notre musique est plutôt intéressé par l'aspect compo, par le fait qu'on fait des morceaux à nous, parce que peut-être que pour eux c'est moins spécial d'entendre des morceaux folk qu'ils connaissent par cœur, même si c'est d'autres arrangements. Et par contre, en Europe, je pense que c'est presque un peu l'inverse, quoi. C'est presque le répertoire turc que les gens ont envie d'entendre. Et même le public turc qui réside en Europe, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça, qu'ils aiment bien, ils adorent entendre un groupe qui est composé d'Européens de différents pays qui jouent la musique de chez eux.
Ouais, il y a un côté peut-être un peu nostalgie aussi.
Ouais, il y a ça. Il y a la nostalgie et puis je pense aussi vraiment une sorte de surprise, de bonne surprise, quoi. Ah, mais vous connaissez ces chansons, vous les jouez et tout, comment ça se fait? Il y a un truc comme ça. Alors qu'en Turquie, j'ai l'impression que les gens sont plus vous faites vos morceaux à vous, c'est cool, vous avez vos propres chansons, c'est bien.
C'est un répertoire que tu connaissais là, avant de créer le groupe, les traditionnels turcs?
Pas du tout. Alors, moi, je connaissais quand j'étais... au tout début que je commençais à écouter plein de... Quand j'étais au lycée, quoi, que j'écoutais beaucoup de trucs, je commençais un peu à farfouiller dans différentes directions. J'avais découvert il y a des compilations qui s'appellent Altin Microphone. En fait, c'était des concours, des sortes de tremplins de groupes de rock en Turquie dans les années 60. Et les groupes qui gagnaient ces tremplins, ils sortaient des disques ils sortaient un 45 tours et ils faisaient une tournée. Et en fait, il y a eu toute une série de disques qui sont sortis comme ça. Et donc moi, j'avais écouté des compilations de ces trucs-là et que j'adorais. Et puis, je connaissais un petit peu Barış Manço, Selda, enfin les grandes figures du rock. Pop rock turc des années 60-70. Mm. Et ça, j'aimais beaucoup et je connaissais bien. Et par contre, après, tout ce qui est plus vraiment trad, par exemple, les joueurs de saz, dont on est fan, et ça, c'est plutôt Deria qui nous a initiés et qui nous a un peu transmis ce savoir-là. Voilà.
Alors justement, il y avait la question aussi de qu'on se posait beaucoup avec Mathilde et sur les autres groupes de 2020. Bon, il se passe ce qui se passe, tout est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Est-ce que vous en avez profité pour écrire? En plus, si vous êtes chacun un peu éloigné, est-ce que ça c'est plutôt problématique ou comment vous vous retrouvez maintenant? Enfin voilà, comment vous avez vécu le truc?
Eh ben, on a essayé de se discipliner un petit peu, c'est-à-dire que une fois par semaine on s'était donné un rendez-vous hebdomadaire pour au moins pour se parler et se dire s'il y en avait un qui avait eu des idées, qui avait eu le temps de travailler sur quelque chose, et puis éventuellement de passer un peu du temps séparément soit pour composer, soit pour réfléchir à quel morceau on pourrait réarranger et tout ça. Donc ouais, on a pas mal avancé, un peu en fragmenté, un peu chacun de notre côté, puis en se parlant régulièrement. Et au mois de juin, parce que c'était mieux que rien, mais il y avait un peu quand même la frustration de pas pouvoir jouer ensemble. Et puis en fait, au mois de juin, dès que ça a été possible de voyager pour Greta et Deria qui devaient prendre des avions et puis qui devaient traverser les frontières, dès que ça a été un petit peu plus ouvert, en fait, on a calé une petite semaine de répète et puis on s'est retrouvés. C'était super chouette. Et du coup, et puis là, cet été, comme on a beaucoup moins de dates que prévu, on va aussi en profiter pour faire un peu de studio, enregistrer. continuer à bosser. Voilà, mais en fait, du coup, il y a, mine de rien, je pensais que ça allait être un peu infructueux, puis en fait, finalement, c'est pas mal. On a quand même pas mal de nouveaux morceaux là qui sont en cours de fabrication. Dans la négativité du truc, il y a quelques positivités.
Bah oui, mais tant mieux.
Ouais.
Donc, quand les groupes disent ça, tu fais ouais, trop hâte. Il vaut mieux entendre ça que, enfin voilà.
Oui, voilà.
La totale déprime, on n'a rien fait.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se forcer. Enfin, c'est pas qu'on se force, mais en tout cas de se dire ah mince, j'ai du temps maintenant, il faut que absolument que j'ai de l'inspiration tout de suite. C'est pas si évident que ça. Mais par contre, moi je trouve aussi que l'inspiration c'est pas un truc magique non plus. Comme disait Ennio Morricone, qui vient de décéder d'ailleurs, paix à son âme. Il me semble que lui, ce qu'il disait en fait, c'est du travail aussi. En fait, on ne peut pas penser que tout d'un coup on va avoir une idée de génie. En fait, c'est aussi que quand on se met dans un mode où on travaille sur les idées, en fait, l'inspiration au bout d'un moment elle vient. Et je pense que j'ai pas encore parlé avec beaucoup d'artistes de ce qui s'est passé avec la crise et le confinement, etc. Mais il me semble que au début c'était un peu le blocage, et puis qu'en fait au bout de quelques mois, en fait, il y a des petites choses qui se débloquent, et c'est grâce à en fait à un petit peu de travail qui se fait et qui finalement aboutit à des idées. Et je pense qu'il va y avoir des choses bien qui vont sortir finalement.
Beaucoup de choses, ouais. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'il va y avoir tellement de choses, de nouvelles choses à écouter. Tant mieux. Mais il va falloir trouver de la place pour tout le monde, pour défendre tout le monde.
Ouais, ça va être un petit peu l'embouteillage. Puis avec les concerts et les représentations, ça va être un peu l'embouteillage aussi.
Bon, après, le but, enfin nous en tout cas, que ce soit sur la salle ou sur le festival, l'idée c'est de vraiment laisser un max de place pour tout le monde et justement reconstruire des choses plutôt que reporter, ou enfin voilà, on sera plus dans la reconstruction, ça c'est sûr, parce que bah, il va falloir que chaque voix puisse être entendue, ce qui me semble assez important.
Ouais.
Et en termes, alors toi t'es français, vous êtes en groupe, parce que la question de l'intermittence, par exemple, je sais pas si t'es intermittent, tu vois,
on l'est, les deux français du groupe, oui.
Ouais, c'est ça. Comment vous appréhendez les choses futures, en fait, si est-ce que c'est hyper problématique, ou si justement vous dites que vous allez rebondir sur d'autres choses. Enfin,
bonne question. Moi, pour l'instant, je me suis pas trop, pris la tête sur ce sujet-là. En fait, au moment où c'était encore complètement flou, et un moment où je me suis dit en fait, si dans le pire des cas, c'est mort, on perd ce statut-là et tout, bah, ça sera pas la fin du monde non plus, et puis on fera autrement. Aussi, enfin, moi j'ai vécu 8 ans en Angleterre où il n'y a pas du tout ça,
oui.
Et j'ai très bien survécu. Moi j'avais un compte en banque un peu vide, mais, mais par contre, je veux dire, on se débrouille autrement. Après, s'il faut arriver à être un petit peu flexible, bon, maintenant on a des enfants et tout ça, c'est un peu plus dur, mais je pense que tout ça pour dire que moi j'aime bien aussi me dire qu'on est prêt à ce qu'il y ait des changements, des gros changements, et puis être prêt à sortir de notre zone de confort s'il le faut. Ben, on trouvera des choses. Je pense qu'on a pas mal de, il y a pas mal de ressources qui sont autres que ça, en fait, parce que mine de rien, en tout cas pour nous, je parle au nom du groupe et aussi du collectif, du label et tout ça, parce qu'on est un peu une sorte de petite famille de musiciens et de copains. Et je pense que même si tous les trucs administratifs se cassaient la gueule, je pense qu'on aurait quand même encore, en fait, la force, elle vient pas de ça. En fait, je pense qu'on a suffisamment fait des choses pendant des années, construit des choses. Et que d'une manière ou d'une autre, ça peut pas, je pense pas que ça peut complètement se démolir comme ça, en fait. Parce que je pense que ce qui fait peur, en fait, ce qui fait vraiment peur, je trouve, c'est, c'est la perspective de ne pas pouvoir jouer la musique avec des gens dans une pièce. C'est-à-dire la vision de tout se mettre à faire du streaming, d'être devant des caméras, de jamais avoir de chaleur humaine autour. Ça, c'est l'enfer, c'est horrible. Mais c'est le cauchemar. Mais par contre, après, les questions de économiques et administratives, je trouve que, en fait, quand il y a une force qui est derrière de créative et puis une chose qui est construite avec des choses solides et qui a des disques qui peuvent se faire, qui peuvent être chouettes, qui a des énergies vachement fortes, et ben moi je suis assez confiant, en fait je suis assez optimiste. Je pense que ça peut pas trop être détruit aussi facilement que ça.
Après oui, enfin moi je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Je me dis que quoi qu'il se passe, la musique, elle sera toujours là et qu'il y aura toujours des gens pour en jouer, des gens comme nous pour la défendre et pour rassembler des gens ensemble. C'est sûr que c'était un peu pendant le confinement, pour moi, c'était un peu hors de question de défendre la musique via le live stream. Alors après, on en pense qu'on veut, mais je trouve que c'est tirer les choses par le bas, c'est un appauvrissement de plein de choses et qu'en plus, moi, mon métier, c'est de créer du lien social quand même avant tout. Donc là, tu es un peu dans l'antithèse, on va dire.
Ah oui,
c'est sûr. C'est un peu triste, mais je me dis, enfin voilà, j'ai connu adolescente les concerts sauvages et les raves, etc. Et je me dis que de toute façon, on sera toujours à même et on aura toujours de la ressource, comme tu disais, assez suffisante pour continuer à créer des choses et à se réinventer, comme on nous a assez répété pendant ces 3 mois, faire un peu ce qu'on sait faire et qu'on a envie de faire, de toute façon, ça c'est sûr.
Ouais.
Alors, des concerts en vivant, alors vous en avez quand même sur cette fin d'année ?
Des concerts
en vivant, ouais, enfin des vrais concerts.
Ah oui, et ben, je pense que. Alors là, on a quelques dates en Suisse en juillet, fin juillet, là, qui se sont un peu remaniées. Il y en avait qui étaient déjà prévues, qui avaient été un peu annulées, puis remises. Et oui, ça sera devant du public. Alors, je ne sais pas exactement dans quel.
Dans quelles conditions,
je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas, on sera pas dans des salles vides avec des caméras. Par contre, après, ouais, il y a pas beaucoup d'autres choses. Après, nous, au mois d'août, je crois qu'on va jouer. Il y a une date à Chamonix qui a été décalée, qui était en juillet, festival, qui maintenant est en août, et je crois qu'il y aura du public aussi. Enfin, j'espère. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura du public, mais après, je ne sais pas s'il y aura des restrictions de distance. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est encore flou parce que je n'ai toujours pas refait de concert depuis ça, donc on va voir. Mais donc, oui, on a 4 ou 5 concerts. Et puis, nous, on va aussi on va faire un petit festival, mais tout petit, qu'on va organiser fin août dans la région, dans la campagne à l'ouest de Lyon. Et voilà, on va faire des petits concerts aussi là devant pas énormément de gens. Je pense que ce sera à peu près 200 personnes, mais voilà, ce sera un peu plus ça sera un peu plus rock'n'roll.
Voilà, je sais pas si Mathilde, toi, tu avais des questions à poser particulières, ou si toi, Axel, tu as des choses à dire que tu avais envie de dire.
Non, à part que je vous souhaite plein de bonnes choses et que j'espère que vous allez pouvoir faire des belles choses malgré les circonstances. Je vous souhaite plein de courage et de bonnes choses.
Et bah, également,
c'est ça.
Et puis essayez quand même de vous présenter à un moment au public tourangeau. Moi, ça serait un peu quand même.
Ouais, exactement. Ouais. Je n'osais pas trop le dire pour pas faire le relou, mais pareil, ça serait avec plaisir qu'on viendrait pour de vrai prochainement.
Oh bah oui, c'est quand même un peu le but, quand même. Partie remise, mais partie avec un Y, je tiens à le préciser, même si.
Voilà. Exactement.
Super. Ben, merci beaucoup en tout cas, Axel, d'avoir répondu à nos questions. Et puis à
plaisir.
Très bientôt en Touraine, du coup.
Ouais. Merci Axel.
À bientôt.
À bientôt.